Bonsoir à tous, bienvenue pour cette troisième rencontre au Coin du Livre de l'année 2011. Nous avons le plaisir ce soir, dans le cadre de cette rencontre, de recevoir donc David Locher, qui est le pasteur méthodiste de l'église d'Alès. Alors je rappelle que ces principes, le principe des rencontres au Coin du Livre, ce n'est pas de faire une conférence sur le sujet proposé, mais plutôt de tourner cette rencontre en causerie, même si on n'y arrive pas toujours à cause du nombre qu'on est. Mais bon, voilà, j'aime bien rappeler l'objectif pour que le cadre soit fixé. Et donc, l'orateur introduit le sujet par ce que je préfère appeler un exposé, où il présente les grandes données du sujet. Alors, en l'occurrence, ce soir, la réalité méthodiste, donc son aspect historique, évidemment, puisque vous savez que le méthodisme est un des premiers grands mouvements de réveil du 19e siècle ici en France, apparu au 18e siècle, mais il se répand en France au 19e siècle. Et donc le but est de présenter les grandes données de cette réalité au travers d'un exposé, puis ensuite d'avoir un temps de questions, d'interventions, de remarques, cela vous semble nécessaire, opportun, et donc éventuellement aussi un débat autour de ces questions du méthodisme. Donc David Locher ce soir va nous présenter cette réalité historique, et puis il conclura, il terminera en nous présentant la réalité de l'église méthodiste aujourd'hui d'Alès. Je vais lui demander de nous faire part un peu des activités de l'église pour mieux connaître l'église, puisque je crois que l'intérêt aussi de ces rencontres au Coin du Livre est d'inviter les pasteurs de la ville d'Alès, et aussi de permettre de connaître un peu plus chaque communauté alésienne, chaque église alésienne, au travers de ces différentes rencontres au fil des années. Voilà, donc je laisse la parole à David. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci à tous d'être venus.
Merci et bonsoir à tous. Alors ce soir, j'ai la lourde tâche, n'étant pas un spécialiste, bien que pasteur malgré tout, de l'église méthodiste, n'étant pas un spécialiste de la question, de vous présenter l'église méthodiste. Il m'a semblé le plus opportun de vous parler d'abord de faire un rappel, parce que je vois que l'histoire du méthodisme est quand même relativement connue. On a entendu parler de John Wesley, tout le monde en parle de temps en temps, sans trop savoir vraiment quel est le fondement historique. Mais il m'a semblé plus opportun donc de vous présenter l'aspect historique, premièrement, pour que nous puissions en tirer des enseignements pour nous aujourd'hui, parce que je crois que c'est un mouvement de réveil, qui a particulièrement marqué l'Europe et les États-Unis, et dont toutes les communautés évangéliques aujourd'hui en France, et je dirais même de par le monde, sont issus. Alors Wesley, alors tout d'abord, oui, je voudrais dire juste que je m'appuie sur un livre qui a été édité, et que je crois on peut se procurer, j'en suis pas sûr, qui a été édité lors de la constitution de l'exposition sur le méthodisme, qui normalement voyage un petit peu en France, je ne sais plus trop où elle est actuellement, mais à l'occasion d'une exposition sur la Bible, l'une des églises locales cède cette exposition. Donc je m'appuie largement sur ce travail, qui est entre autres un extrait de la conférence de Monsieur Cotteret au musée de Poët-Laval. Alors Wesley, est-ce qu'on peut parler de Wesley comme un réformateur ou pas? Généralement, l'appellation de réformateur ou de réforme, elle est réservée à la réforme qui comme vous le savez, est beaucoup plus proche de la Renaissance. On attribue le retour au sola scriptura, aux réformateurs tels que Luther ou Calvin, un peu plus tard. Mais il ne faut pas oublier que l'Église est un perpétuel chantier, et que suite à cette réforme-là, il y en a eu beaucoup d'autres, et une en particulier qui a eu cours, comme ça nous a été dit à l'instant, qui a pris pied dans le 18e siècle, et puis pour nous en France dans le 19e. On a parlé en anglais de The Awakening, The Great Awakening, je ne sais pas si je le prononce bien, s'il y a des anglophones, c'est-à-dire de réveil. Et notre mouvance évangélique en est directement issue. C'est dans ce mouvement que John Wesley a pris une part prépondérante. Alors, il est né, pour que nous le situions, en 1703, et il est mort en 1791, donc à l'époque de tous les mouvements qui ont agité en particulier la France, c'est la Révolution française, hein, en plein dans la Révolution française, donc dans le siècle des Lumières. Et donc son existence se confond avec ce siècle des Lumières. Et il passe pour être quelqu'un qui a su, mieux qu'aucun autre, faire passer le flambeau de la réforme au monde contemporain. Alors il a su aussi comprendre l'importance du continent américain et du développement du continent américain pour le développement de son Église. Et puis, donc, on le considère comme l'instigateur principal de ce réveil religieux qui s'est produit en Europe et en Amérique. Alors, son essor n'est pas étranger non plus à une grande crise qui a traversé l'Angleterre, qui est la crise de la révolution industrielle, donc de la fin du 18e, avec une grande pauvreté. Et c'est particulièrement les classes pauvres, vers les classes pauvres, que John Wesley s'est tourné. Classes pauvres qui étaient partiellement, en grande partie en tout cas, déchristianisées. Alors il est fils du révérend Samuel Wesley, de la High Church, donc un pasteur anglican. Et il est issu d'une longue lignée de pasteurs. Sa mère, Susanna, a toujours été quelqu'un d'une grande importance dans son cheminement spirituel. On dirait presque, si ce n'était pas sa maman, son gourou. Elle était politiquement très conservatrice. Et on raconte une anecdote à ce propos qui est très intéressante, qui a donné naissance donc, à John Wesley. C'est la suivante, c'est qu'elle restait attachée au roi Jacques II, qui, lors de la révolution de 1688, avait été chassé de son trône. Son mari, donc le révérend Samuel Wesley, avait pris cause pour la nouvelle dynastie. Et remarquant que son épouse refusait de dire Amen lorsqu'il priait pour le roi en question, le roi Guillaume, le révérend aurait pris une grave décision. Si nous avons deux rois, Susan, nous aurons donc deux lits. Voilà. Et fort heureusement, Jacques II, l'usurpateur, et Guillaume se suivirent de quelques mois dans la tombe, à une année près. Et la brouille sera de courte durée. Le couple a donc pu rattraper le temps perdu très rapidement. Et John Wesley est né de cette réconciliation. Alors l'anecdote est très intéressante parce que Wesley a été toute sa vie l'homme d'un impossible compromis entre le conservatisme et le radicalisme. Soumission, rébellion, contrainte, liberté. Il y a un accident est survenu dans sa vie, un accident qui l'a marqué, qui a marqué toute la famille, puisqu'il s'agit en 1709, de l'incendie du presbytère familial, donc dans lequel séjournait la famille. Et Wesley en sera tiré miraculeusement de cet incendie. Et pour sa maman, elle s'est écriée cette parole tirée d'Ésaïe, qu'il est un tison arraché du feu. Et le Dieu qui l'a sauvé dans sa petite enfance sera pour Wesley celui de la miséricorde, celui qui... qui donne sa lumière à tous les hommes. Alors, il a fait des années d'études en théologie à Oxford, et il a lu L'imitation de Jésus-Christ, que personnellement je n'ai pas encore lu, de Thomas à Kempis. C'est un best-seller de la dévotion, semble-t-il. Et John Wesley le trouve trop sévère, Thomas à Kempis. En particulier, il refuse de penser que la quête du bonheur soit un péché. Et sa maman acquiesce et disait qu'il serait blasphématoire que Dieu n'a pas voulu le bonheur de ses créatures, ou qu'il ait, par un simple décret, condamné certains hommes au malheur. C'est déjà l'affirmation du droit au bonheur et la négation de ce qu'on a appelé le calvinisme, l'ultra-calvinisme, la double prédestination, qui est déjà en germe là. Wesley est bien donc un homme du siècle des Lumières. Il définit ainsi sa foi chrétienne. « J'entends parfois un assentiment fondé sur des motifs rationnels, parce que j'affirme que le témoignage divin constitue la preuve la plus rationnelle. La foi doit nécessairement se résoudre finalement en raison. » Alors, avec plusieurs condisciples d'Oxford, il a participé à des groupes d'études bibliques tournés vers les œuvres charitables. Ils ont été appelés très tôt du sobriquet de Holy Club, club de sainteté, groupe de sainteté. Et quant à ses membres, ils ont été surnommés, ironiquement, de méthodistes, par le caractère méthodique de leur piété. Donc, ce n'est pas un nom, le nom méthodiste ne vient pas de personnes qui se seraient elles-mêmes autoproclamées, mais au contraire, il est tiré d'une boutade. Et au centre de cette première piété méthodiste, il y a une insistance sur la Sainte Cène. Et il faut savoir qu'à l'époque, la Sainte Cène était assez peu pratiquée, du moins en Angleterre, et en tout cas très exceptionnellement. Et Wesley dit de cette époque, c'est très intéressant, « En 1730, je commençais à visiter les prisons, à assister les pauvres et les malades en ville. Par ma présence ou grâce à ma petite fortune, je faisais tout le bien possible, aux âmes et aux corps de tous les hommes indifférenciés. Cette réputation fut vite légendaire et je me réjouissais que l'on rejetât mon nom comme mauvais. » Le printemps suivant, je commençais à observer les jeûnes du mercredi et du vendredi, comme dans l'église ancienne. Je ne goûtais nulle nourriture avant 3 heures de l'après-midi. Je ne savais ce qu'il était encore possible de faire. Je luttais avec diligence contre tout péché. Je n'omettais aucune forme d'abnégation lorsqu'elle me paraissait utile. Je n'omettais aucune occasion de faire le bien. Je savais que tout cela n'était rien à moins de conduire à la sainteté intérieure. Aussi, je n'avais d'autre but que l'image de Dieu en accomplissant sa volonté et non la mienne. Et cependant, malgré l'admiration qu'on peut porter sur ce discours et sur ses actes, il portera plus tard un regard critique sur ce premier méthodisme. Cependant, après plusieurs années dans cette voie, alors que je craignais d'être au bord du trépas, je découvrais que tout cela ne me donnait aucun réconfort, et que je n'étais pas même sûr d'être agréable à Dieu. Cela me surprit grandement, car je ne pouvais pas m'avouer que pendant tout ce temps, j'avais construit sur du sable, en oubliant qu'il n'y avait pas d'autre fondation que celle que posait Dieu, même le Christ Jésus. » Wesley est profondément protestant, dans ce refus d'une religion des œuvres. Et le second épisode majeur sur le plan spirituel de John Wesley a commencé par un séjour malencontreux en Amérique pendant une année, de 1736 à 37, et sur un bateau, alors qu'une tempête se déchaîna lors de la traversée de l'Atlantique, il fut subjugué, je ne sais pas comment dire, très étonné par le calme et la joie qui régnait chez ces chez les personnes qui l'accompagnaient, qui étaient des disciples du comte Zinzendorf, qui sont donc les frères moraves. Et très étonné par le calme, il chantait des cantiques dans la tempête, alors que tout le monde semblait être sûr de sombrer. Il s'est posé des questions sur ce qu'était sa foi. Il dit la chose suivante: « Je demandais à M. Stagenberg, le pasteur morave, son avis sur moi-même et sur ma conduite. Il me dit de ne pas pouvoir me répondre tant qu'il ne m'aurait pas posé deux ou trois questions. Vous connaissez-vous vous-même? Avez-vous un témoin en vous? L'Esprit de Dieu informe-t-il votre esprit que vous êtes un enfant de Dieu ?» Étonné, je ne sus comment répondre. Il vit mon trouble et demanda « Connaissez-vous Jésus-Christ ?» Je marquai un instant de silence avant de répondre « Je sais qu'il est le sauveur du monde. »« C'est vrai, » fit-il, « mais savez-vous qu'il vous a sauvé ?» Je repris « J'espère qu'il est mort pour me sauver. » Il se contenta de répliquer « Le savez-vous vous-même ?» Et je répondis « Oui, mais je crains d'avoir parlé en vain. » Ainsi, alors même qu'il pensait prêcher la bonne nouvelle aux Amérindiens, aux esclaves africains, Wesley s'aperçut qu'il n'était pas lui-même converti. Et on raconte aussi il raconte aussi un échec sentimental qui a suivi ces quelques années, un échec assez lamentable, qui en dit aussi long sur ce qu'on peut faire, nous aussi, aujourd'hui, dans notre manière de choisir le conjoint. Chargé d'une paroisse à Savannah, en Géorgie, le pauvre révérend tomba amoureux d'une jeune fille de 18 ans, qui s'appelait, bon, peu importe. « Je m'aperçois, Miss Sophie, lui dit-il, que je ne saurais laisser mon cœur s'embraser sans brûler moi-même. » La suite est édifiante. « Je me retire donc pour recevoir les conseils de Dieu. Joignez-vous à moi, mon ami, dans une fervente prière, afin qu'il me montre ce qu'il faut faire. » Alors il procéda avec un ami à un tirage au sort. Ce n'est pas l'Urim et le Thummim, c'est tirage au sort avec trois papiers. Sur le premier était écrit « Épousé », sur le second « Pas pour cette année », et sur le troisième « Oublie-la ». Et c'est bien entendu le troisième qui est tombé. Et quant à Sophie, elle jeta les yeux sur un autre homme dont il dit qu'il était un garçon sans esprit, qu'elle épousa. Et lorsque Wesley lui refusa l'accès à la table sainte, quelques mois plus tard, il fut accusé par la communauté, rejeté par la communauté, accusé de diffamation. Donc il quitta piteusement les États-Unis. Et un an plus tard, en 1738, il dit la chose suivante. « À 9h moins le quart, au soir, eut lieu un événement décisif. Je me rendis sans conviction à une réunion où on lisait la préface de Luther à l'Épître aux Romains. Il était environ 9h moins le quart, lorsqu'entendant la description des transformations que Dieu opère dans nos cœurs par la foi en Christ, je sentis une chaleur étrange s'emparer de mon cœur. Je sentis que je faisais confiance au Christ seul pour mon salut, et je reçus l'assurance qu'il avait enlevé mes péchés, même ceux que moi-même j'avais accomplis, et qu'il m'avait sauvé du péché et de la mort. » Donc désormais, l'impulsion a été donnée. Je ne vais pas parler des histoires un peu compliquées qu'il a eues avec la femme avec laquelle il s'est marié. Ce ne fut pas un mariage très heureux. Mais ce que je trouve d'étonnant, c'est que le Seigneur sait toujours utiliser les circonstances malheureuses de nos vies pour accomplir son œuvre. Et je crois que c'est ce qu'il a fait avec John Wesley. Mais sous l'impulsion, l'impulsion était donnée, et pour lui, il a commencé à prêcher, souvent en plein air, s'adressant à tous les laissés pour compte. Et en Angleterre, en ce temps-là, il y en avait beaucoup. Il est l'auteur de cette phrase célèbre, « Le monde est ma paroisse ». C'est une phrase extraordinaire, hein, qui... très intéressante. Pendant 50 ans, il a donc parcouru l'Angleterre entière en se levant à 4 heures du matin, prêchant plusieurs fois par jour. Et pour lui, la vie chrétienne était essentiellement une rencontre avec Jésus-Christ. Ce qu'on appelle la conversion qui doit changer la vie entière, d'où l'aspect très concret du christianisme qu'il prêchait. Alors au départ, le méthodisme défie un petit peu toutes les lois ecclésiales en vigueur. Hein. Parce qu'il faut savoir que John Wesley était un pasteur anglican et qu'il n'a jamais voulu quitter l'église anglicane. Les cercles de piété qu'il a créés étaient des cercles dont le but était de réformer, d'aider certaines personnes à aller un peu plus loin et de réformer l'église anglicane de l'intérieur. Donc l'ambition de Wesley n'a jamais été de créer une église, mais de susciter au sein de l'église établie un mouvement de réveil dominé par la réforme des mœurs et pas seulement par la doctrine. Entraide, lutte contre l'alcoolisme, croisade contre la misère. Wesley est quelqu'un qui a intimement lié les œuvres sociales et la foi chrétienne. Le méthodisme marque une réorientation de la piété en direction des classes populaires, alors que lui-même était un pasteur de la High Church, la haute église anglicane. Et ce discours n'a pas plu à la High Church. Il raconte la chose suivante, par rapport au grief que lui faisait le clergé anglican contre les prédications méthodistes, dont il n'était pas le seul, hein, puisqu'on va le voir, il n'était pas le seul à prêcher. « Cela fait environ 7 ans que nous avons commencé à prêcher le salut intérieur et immédiat, accessible à la seule foi. Pour avoir prêché cette doctrine, l'on nous a interdit d'utiliser les églises. Nous avons alors prêché dans des maisons particulières, lorsque nous le pouvions. » Et lorsque les maisons étaient trop petites pour contenir la foule, nous avons prêché en plein air. C'est la raison pour laquelle une grande partie du clergé a prêché ou publié des choses contre nous en nous traitant d'hérétiques et de schismatiques. Très attaché à l'Église anglicane, ce n'est qu'à contre-cœur, à cause de l'opposition des autorités de cette Église, qu'il s'est résolu à fonder l'Église méthodiste. Finalement, les méthodistes se retrouvèrent à la mort de John Wesley en dehors de l'église établie en Angleterre. Et c'est l'église méthodiste en tant qu'église a été fondée en, ça y est, je ne me rappelle plus, c'est vers 1780, peu importe, tout d'abord aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont proclamé leur indépendance vis-à-vis de l'Angleterre, et il faut savoir que l'église d'État en Angleterre était l'église anglicane. Donc plus d'Angleterre, plus d'église anglicane. Du coup, les groupes se retrouvaient seuls livrés à eux-mêmes et ont dû se constituer en église, ce qui a entraîné... John Wesley a même nommé des pasteurs, chose qu'il n'aurait jamais voulu faire. Et il l'a fait à contre-cœur, mais il l'a fait et il a été obligé de constituer une organisation qu'on appelle aujourd'hui l'Église méthodiste. En tout cas, il restera pour l'histoire un prédicateur infatigable. 360 000 kilomètres parcourus, la plupart du temps à cheval. On a des gravures de lui avec un pupitre sur le cheval. Il faut voir ce que c'était. Il ne descendait même pas de son cheval. Il prêchait avec le pupitre et il écrivait ses sermons pendant que le cheval faisait le chemin. C'était quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas comment on pourrait réactualiser ça aujourd'hui entre Alès et Saint-Jean-de-Valéry. Ça va être difficile. 40 000 sermons. Il a laissé 40 000 sermons. Et son influence est considérable. Beaucoup voient en lui le père du protestantisme moderne. Alors, il y a deux autres personnalités, hein, parce que ce réveil n'a pas eu lieu à lui tout seul, hein, avec John Wesley tout seul. La seconde personnalité, c'est Charles, qui est l'auteur de nombreux cantiques. Alors, je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder parfois dans les « À toi la gloire » ou dans certains « Ailes de la foi », je ne sais pas si vous avez l'occasion de chanter, vous regarderez, il y a un certain nombre de cantiques de Charles Wesley, traduits en tout cas. Il a composé 6000 cantiques, donc c'est un compositeur de, on va dire, de génie. 6000 cantiques, et c'est lui qui est le compositeur de « Seigneur, que neige et mille voix », même si il a été adapté en France par l'Institut de Ville de Nogent. Science, Ruben Science. Voilà. Mais c'est un chant de Charles Wesley. Seigneur, que n'ai-je mis le voix pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix. Et puis, il y a George Whitefield, qui est un orateur exceptionnel. En Angleterre, pour nous, ce sont des personnages qui sont peut-être inconnus, mais George Whitefield est connu en Angleterre pour être certainement l'orateur le plus exceptionnel que l'Angleterre ait jamais eu. Alors, on dit de lui qu'il était capable de faire trembler, pleurer des foules en prêchant sur le mont Mésopotamie. En tout cas, il a beaucoup prêché, oui, son influence a été plutôt connue aux États-Unis. Je ne sais pas si j'ai encore le temps.
Oui, bien sûr.
L'expérience spirituelle de Wesley et de ses amis les amène à désirer un réveil de toute l'Église. Partout où ils le peuvent, ils se mettent à proclamer le message libérateur de la grâce de Dieu. Dans des églises tombées un petit peu dans le... Oui, un petit peu endormies, en particulier dans l'Église anglicane. Mais devant l'opposition d'une grande partie de l'Église officielle, qui leur ferme ses temples et ses chapelles, ils seront amenés à trois innovations qui vont bouleverser, qui seront certainement les trois innovations qui vont conduire au succès de leur prédication. La première, c'est la prédication en plein air. Pour la première fois, des prédicateurs sortent des édifices pour rejoindre le peuple là où il vit. Et il y a eu des rassemblements de 20 000 jusqu'à 40 000 personnes qui se réunissaient pour entendre parler Wesley ou Whitefield. Le second point, c'est la prédication itinérante. On a parlé du cheval, hein, donc il parcourait les contrées. Et la troisième innovation, c'est la prédication faite par des laïcs. C'est certainement l'innovation la plus révolutionnaire parce que pour la première fois depuis longtemps, en tout cas, et dans l'histoire de l'Église, la prédication et l'explication de la parole de Dieu n'étaient pas réservées à des membres d'un clergé éloigné de la population, mais que c'était des personnes du peuple, très proches, et très proches du peuple et de ses problèmes, ce qui a rendu le méthodisme finalement très abordable pour les classes populaires, les masses populaires. Donc ces innovations ont conduit à un christianisme beaucoup plus pratique, moins théologique, atteignant le peuple dans son propre quotidien. Alors si la prédication en plein air est rendue difficile aujourd'hui en France, en raison des lois sur la laïcité, hein, et sur la pratique de la religion l'espace public, la notion d'itinérance reste encore aujourd'hui une particularité du méthodisme, même si je crois que ça va l'être de plus en plus de toutes les églises. En effet, ce qu'on appelle nos districts qui peuvent recouvrir un seul pays ou plusieurs pays. Pour nous, en France, c'est le district francophone qui couvre la France et la Suisse. Ces districts peuvent être organisés en circuits. Qu'est-ce qu'un circuit ? C'est un circuit de prédication, tout simplement. Et donc, moi-même, je suis affecté dans un circuit, qui est le circuit Alès-Saint-Jean-de-Valérisque. Donc, ce caractère itinérant est conservé dans l'Église méthodiste. L'autre particularité du méthodisme, c'est la place importante réservée aux laïcs. En tout cas, à l'époque, c'était quelque chose de nouveau, qui font partie intégrante des décisions de l'Église et du fonctionnement de l'Église. Et bien que n'ayant, a priori, pas la charge, au même titre que les pasteurs, ils sont néanmoins ordonnés au même titre encore aujourd'hui, au même titre que les pasteurs après une formation appropriée. Alors, localement, ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, à Alès, ce n'est pas le cas encore, mais je vous expliquerai pourquoi, puisque il y a deux unions qui ont des traditions différentes et qui ont fusionné en 2006 et qui, actuellement, apprennent à avoir une communion de fonctionnement. Alors, dans sa théologie, la théologie de Wesley et des églises méthodistes est celle des réformateurs. Cependant, il y a trois accents particuliers à relever. D'abord, l'importance de la vie spirituelle et du témoignage. Préoccupation doctrinale, la préoccupation doctrinale passe au second plan. L'important, c'est la vie nouvelle et sa mise en pratique. Le méthodisme est plus un mouvement d'action que de réflexion. La deuxième chose, c'est l'appel à la conversion. Tout être humain doit se décider pour Jésus-Christ. Et c'est à cela que les prédicateurs méthodistes appellent inlassablement leurs auditeurs. Et c'est même lorsqu'on prête serment ou lorsqu'on est ordonné, ce sont des questions auxquelles on doit répondre oui. Est-ce que tu es prêt à prêcher le Christ et la conversion ? Enfin, je ne me rappelle plus des termes, mais j'ai dû répondre oui, heureusement. John Wesley s'oppose à la doctrine de la prédestination. Qu'il trouve « very shocking », vous comprendrez, très choquante. Et sur ce point, il s'est séparé de son ami de toujours, compagnon d'œuvre, George Whitefield, qui lui était un calviniste convaincu. Et puis enfin, l'importance de l'entière sanctification, c'est peut-être ce qui est le plus controversé et qui moi-même m'a posé question. Est-ce que nous pouvons être entièrement sanctifiés ici-bas ? Alors là, je laisserai le débat pour d'autres personnes derrière moi, des théologiens. Mais je pense que Wesley a été mal compris sur ce point-là. Je pense que pour lui, la sanctification était plus un état dans lequel on était plus qu'un état, était une aspiration et un chemin sur lequel on avançait. Donc une aspiration de tout son cœur à rechercher la sainteté. Ça me semble être biblique. Maintenant, peut-être que l'un ou l'autre sermon me fera un petit peu, me contredira, mais je pense que ça, en tout cas, c'est tout à fait biblique. En tout cas, je le prêche très fortement. Il parle aussi d'une expérience ultérieure à la conversion qu'il appelle une seconde bénédiction, et c'est un thème qui sera repris en particulier par les mouvements pentecôtistes qui ont suivi. Il faut savoir qu'au départ, dans le pentecôtisme, il y a un certain nombre d'anciens pasteurs méthodistes qui sont à l'origine. Pas tous, je sais qu'il y a aussi des baptistes, mais beaucoup de méthodistes. Voilà. Alors, je vais sauter sur les implications sociales. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la théologie, si on peut dire, je parlerai plutôt de théologie pratique, alors méthodiste, les questions sociales sont au centre. D'ailleurs, j'ai ici un petit peu notre confession de foi, qui est c'est pas une confession de foi en une page, vous voyez, il y a un certain nombre de pages. qu'on appelle fondements doctrinaux et qu'on mélange avec principes sociaux. Donc, il y a une mise en pratique de la foi, vous voyez, hein, qui est au départ qui est au départ du méthodisme, qui étaient les convictions de Wesley et qui sont encore maintenues aujourd'hui. Alors, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, ça y est, j'ai ma date. Donc, le méthodisme s'est propagé très rapidement dans l'Ouest américain en particulier, bien qu'ayant commencé dans l'église anglicane. Il devient une église autonome donc en 1784. Et puis en 1830, en Angleterre. Alors, il y aura eu une croissance rapide de l'église méthodiste, régulière tout au long du 19e siècle, et jusqu'en 1950, il forme l'église la plus nombreuse des États-Unis. Alors aujourd'hui, le méthodisme rassemble des églises de tradition méthodiste, mais peut-être qui se réclament du méthodisme, mais qui divergent sur certains points, comme par exemple, alors je ne sais pas si je parle de, par rapport à la prédestination, j'allais dire l'arminianisme ou le calvinisme. Donc il y a deux courants, entre autres, hein, il y a d'autres courants qui sont unis aujourd'hui au sein de l'Église méthodiste unie, qui regroupe 77 branches dans plus de 130 pays. Et j'ai lu tout à l'heure, c'est 11 millions de personnes dans le monde. De membres, hein, parce que déjà, en nombre de membres dans l'église d'Alès, je crois qu'on a autant d'amis que de membres. Donc, si on compte le nombre de personnes qui fréquentent les églises, c'est encore autre chose. La plus nombreuse de ces branches, c'est l'église évangélique méthodiste, qu'on appelle United Methodist Church, et dans laquelle nous sommes inclus, nous, la France. Alors, les premiers missionnaires méthodistes sont arrivés en France à la fin du XVIIIe siècle, de Jersey et de Guernesey. Ils parlent français et ils ont commencé leur travail en Normandie. Alors, c'est étonnant parce qu'en Normandie, aujourd'hui, aller implanter une église, mais c'est très très difficile. Mais il se trouve que c'est là-bas qu'a commencé le travail. Ils insèrent leur travail missionnaire au sein de la famille protestante. Là où on leur donne le droit, ils viennent prêcher leurs convictions, sans fonder une paroisse. Mais petit à petit, ces groupes se sont constitués en église. Et à l'époque, nous étions, c'est donc début du 18e, du 19e, pardon, nous étions sous la coupe de l'Angleterre. Donc le méthodisme, en tout cas celui qui est du sud-est, et qui s'est le plus largement propagé en France, est issu d'Angleterre directement. Un certain Charles Cook, qui a beaucoup travaillé dans la région, hein, dans le Vaunage, je crois, si je me souviens bien, consacre 40 années de sa vie à la France, à partir de 1818, notamment dans la prédication itinérante. Et ceci au sein même de l'Église réformée. Et après plusieurs années, ces sociétés se constituent en Église autonome, comme je l'ai dit. En 1870, on compte 184 chapelles méthodistes, 30 pasteurs et proposants, 22 évangélistes, 101 prédicateurs laïcs et plus de 2000 membres. Donc le méthodisme a pas mal influencé en son temps le protestantisme français, si bien qu'au 19e siècle, on appelle méthodistes les partisans du réveil au sein de l'Église réformée, semble-t-il. J'y étais pas, donc je ne peux pas vérifier, mais c'est ce que les écrits apportent. Paul Cook, le fils de Charles, est le premier président de ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle toujours, la Société des écoles du dimanche. Donc là aussi, les méthodistes ont pris une grande part à la création d'écoles du dimanche, qui aujourd'hui ne sont consacrées qu'à l'enseignement des enfants le dimanche matin, mais qui, à l'époque, était un enseignement un enseignement qui n'était pas seulement religieux, mais qui concernait tous les domaines, dans des classes très, très appauvries. Ces enfants n'avaient pas droit à une éducation, et donc l'objet de l'école du dimanche était d'enseigner ces enfants pour leur procurer un avenir. Voilà. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'en 1939, la plupart des églises méthodistes ont fusionné avec l'église réformée, et que dans le sud-est subsistait, jusqu'à il y a peu de temps, puisque maintenant ils ont fusionné avec quelqu'un d'autre, mais restait un groupe d'églises, un grand nombre d'églises qui n'existent plus peut-être aujourd'hui, pas toutes en tout cas, qui n'ont pas désiré fusionner avec l'église réformée en raison de leur penchant libéraux. Et donc l'église d'Alès est issue de ces églises dissidentes qui n'ont pas voulu rentrer dans le rang. Entre autres, hein, voilà. Ce groupe d'églises du sud-est s'est appelé l'église méthodiste de France. Alors je ne vais pas raconter l'histoire de l'autre branche qui, elle, est venue plutôt des États-Unis. Branche de laquelle je viens personnellement, qu'on appelle les méthodistes d'Alsace, parce que bon, ils sont un peu loin et ils prennent des décisions pour nous, mais c'est absolument faux. Mais bon, c'est ce qui se dit. Mais les Alsaciens donc sont issus de l'église méthodiste qui s'appelait autrefois l'Evangelische Gemeinschaft, c'est-à-dire la communauté évangélique. Une communauté de gens d'Allemands en particulier, qui ont vécu un réveil aux États-Unis et qui ont parlé de ce réveil méthodiste à leur famille qui était restée en Europe, qui se sont donc ensuite tout naturellement appelés Église méthodiste. Lorsque les premiers pasteurs méthodistes venus des États-Unis sont arrivés dans ce contexte-là, eh bien, ils étaient très attendus et ils se sont naturellement fondus. Et l'Evangelische Gemeinschaft s'est rebaptisé du nom de Église méthodiste épiscopale ou Union évangélique. Église évangélique méthodiste. Ces deux unions, cette union issue des États-Unis et l'union dissidentes, donc historiques venues d'Angleterre, ont fusionné en 2006 pour s'appeler l'UEMF, Union des Églises évangéliques méthodistes de France. Voilà. Et actuellement, donc, nous sommes une petite union d'églises. Nous ne sommes que 25 églises. Certaines très autonomes, d'autres beaucoup moins. Mais il y a un principe de fonctionnement dans l'Église méthodiste qui, moi, personnellement, m'a beaucoup plu, parce que je le trouve aussi très biblique. C'est celui d'une caisse centrale. C'est-à-dire que les églises pauvres, qui n'ont pas le moyen de se payer un pasteur, ont droit, elles aussi, à avoir un pasteur, bien que on n'est pas très riche comme toutes les églises évangéliques, mais disons que chaque église fait remonter à une caisse centrale une certaine somme qui est fixée, qui est un objectif qui est fixé en début d'année, qui ne correspond pas nécessairement au salaire ou à la charge d'un pasteur, mais qui peut être largement au-dessus, voire largement en dessous, et le tout est réparti uniformément de manière à ce que chacun puisse avoir un pasteur. Je pense que c'est le principe de la mise en commun des biens qui était dans l'Église primitive, qui est conservé à ce niveau-là, du moins, que je trouve très, très intéressant pour pour cette communauté d'église. Voilà, sinon après, eh bien, je pourrais parler du système des conférences, mais c'est peut-être un petit peu compliqué, et je crois que je vais en rester là. Et je vais m'en remettre à vos questions, sachant que je ne suis pas un spécialiste de l'Église méthodiste, bien que pasteur dans l'Église méthodiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec les communautés locales. C'est vrai que tout ce qui est apparat, j'ai un petit peu de mal avec ça, donc je m'y intéresse, mais de loin. Voilà. Donc, si vous voulez poser des questions, eh bien, je suis toujours disposé à vous répondre, mais dans la mesure de mes possibilités.
Très bien. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà un beau panorama de l'histoire de l'Église méthodiste, de ses principes, de sa théologie et de son évolution, avec déjà quelques jalons posés pour son organisation ici, dans notre région, en France, de manière plus générale. Alors voilà, je ne sais pas si le public veut réagir à des remarques, des questions, des précisions qu'il souhaiterait, peut-être au niveau local ou plus général. Je vous laisse la parole. Oui.
Alors, il y a effectivement un lieu spécifique, mais qui est c'est donc une faculté qui est en Allemagne, à Reutlingen, mais elle est uniquement de langue allemande, et pour la France, en tout cas, les facultés qui sont préconisées, facultés ou instituts, sont les facultés évangélique ou institut évangélique connu, à savoir Fac de Vaud, Institut biblique de Nogent, Fac d'Aix-en-Provence. Et nous avons quelques pasteurs qui ont été formés en Suisse aussi, à Lausanne, et, entre autres. Voilà. Donc nous sommes en partenariat en particulier avec la faculté de Vaud-sur-Seine.
Et plutôt une préférence pour la Fac de Vaud En général, les pasteurs sont plutôt recrutés issus d'études à Vaud ou c'est très éclectique
Alors, disons qu'il faut dire une chose, c'est qu'il y a une commission des ministères qui est composée donc de pasteurs, de certains de mes collègues, qui aident, qui orientent en tout cas les candidats au poste pastoral. Et en général, ça s'oriente plutôt vers la faculté de Vaud, voire l'Institut biblique de Nogent, bien qu'on ne soit pas fermé à ça, hein, mais c'est vrai que c'est plutôt là, parce qu'on a une longue histoire de partenariat avec ces instituts-là, et parce que je pense que la formation qui est dispensée est éminemment biblique, et correspond en tout cas aux convictions de l'Église méthodiste en France. Voilà.
Le niveau de recrutement, c'est on demande une licence, un master ou plus.
Alors le niveau de recrutement, donc c'est bachelor, donc je crois que c'est licence, c'est ça. Je viens de recevoir mon diplôme aujourd'hui, après trois ans après que je l'ai passé, mais bon, voilà. Oui, c'est niveau licence. Il est préféré de la part de la commission des ministères que les proposants puissent aller jusqu'à la licence minimum. S'il a des aptitudes, aller plus loin, mais on estime que la licence, le niveau licence est suffisant.
D'autres questions, remarques ? Oui.
Je m'y attendais.
Et oui.
Je m'y attendais. Et donc, alors je lis les 13 pages suivantes. Il se trouve que j'ai fait un devoir pour la Fac de Vaud, justement, sur John Wesley et sa position par rapport à l'arminianisme, par rapport à la prédestination, pardon. Alors très tôt, j'ai dit J'ai fait une allusion à ça quant au courrier qu'ils échangeaient avec sa maman. Et il a dit la chose suivante: « S'il est décrété de toute éternité qu'une partie déterminée de l'humanité sera sauvée et qu'une grande majorité de cette humanité est née pour être éternellement perdue, sans aucune possibilité d'éviter son sort, comment concilier cela avec la justice et la miséricorde de Dieu ? Est-il miséricordieux de destiner une créature à une misère éternelle ? Est-il juste de punir un homme pour des crimes qu'il ne peut pas ne pas commettre ? Admettre que Dieu soit l'auteur du péché, ce qui me paraît être la conséquence de cette opinion, c'est là une contradiction aux idées les plus claires que nous ayons, aux idées les plus claires que nous ayons de la nature de Dieu et de ses perfections. » Alors, sur ce point de vue, il s'écartait de la position de l'Église anglicane, qui, elle, est plutôt en faveur de la prédestination. Alors, je dirais que... J'ai relu mes notes, hein, parce que ça fait quand même 3 ans que j'ai sorti ce truc. Et je vous avoue que c'est un petit peu lointain pour moi, mais je dirais que John Wesley s'écartait quand même des thèses d'Arminius, en tout cas les thèses les plus extrêmes, Arminius étant le défenseur du libre arbitre, grand défenseur du libre arbitre. Et que dire par rapport à ça ? Il a publié, alors je vais retrouver ça, hein. Oui, contre ce qu'il appelait l'horrible doctrine des décrets, c'est-à-dire des décrets divins, hein, que Dieu décrète de manière absolue, que certains sont pour l'enfer et d'autres pour le paradis, pour la présence de Dieu éternelle. Il publia en 1740 son fameux sermon « La libre grâce ». Qui fut le coup de clairon qui lança la polémique avec les calvinistes. C'est un écrit donc incisif qui dénonce avec fougue les dangers et les méfaits de la prédestination. Et il répond à cette doctrine par les points suivants. Premièrement, la doctrine des décrets rend inutile la prédication. Il ne sert de rien, en effet, de prêcher à ceux qui sont élus, puisqu'ils seront infailliblement sauvés. Et il ne sert pas davantage de prêcher aux non-élus, puisqu'ils seront damnés quoi qu'on fasse. Deuxièmement, cette doctrine tend à détruire cette sainteté qui est le but de Dieu, en détruisant les motifs d'être saint, que l'Écriture fait valoir si souvent, l'espérance d'une récompense future et la crainte du châtiment. Elle tend, troisièmement, à détruire les consolations et le bonheur que la religion apporte aux hommes, en jetant dans le désespoir ceux qui se croient réprouvés, et en portant les autres à se contenter de leur orgueilleuse assurance. Elle tend à détourner les bonnes œuvres et nous rendre insensibles aux misères morales des hommes. Elle a une tendance directe et évidente à renverser la révélation chrétienne en lui enlevant sa nécessité. Elle méconnaît certaines affirmations les plus positives de l'Écriture, mais je ne vais pas les détailler. Et c'est selon lui, une doctrine blasphématoire, car elle tend à démentir les plus solennelles affirmations de Jésus sur son œuvre et à le représenter comme disant d'une façon et pensant d'une autre. Cette doctrine déshonore le Père en faisant de lui un être partial et cruel. Alors on a reproché cette véhémence, en particulier face aux déclarations du synode de Dordrecht, hein, qui a proclamé le calvinisme dans son expression la plus dure, je dirais. Mais il n'est quand même, malgré tout, pas trop entré dans le débat. Il considérait que tout autant Calvin que Arminius étaient des personnes respectables, des chrétiens, il pourrait dire, je pense, des frères, tout en disant que, eh bien, ils avaient leur position. Alors c'est parfois, par rapport à ce que je viens de dire, ça peut paraître parfois un petit peu difficile à concilier, d'arriver à s'entendre avec des personnes en s'exprimant de cette manière-là. Cela dit, en 1770, la querelle est devenue tellement difficile au sein du méthodisme, puisque ce n'était pas qu'une querelle entre Wesley et l'extérieur du méthodisme, c'est même au sein du méthodisme, il y avait des partisans de la prédestination, des partisans du libre-arbitre. Wesley a publié une lettre, en particulier contre une certaine Toplady, qui était méthodiste et qui était donc calviniste, en disant que les méthodistes ont trop penché vers le calvinisme et qu'ils ont tort d'admettre que l'on n'a rien à faire en vue de la justification et que d'après l'Écriture, pour se repentir réellement, il faut faire des œuvres de repentance. Voilà. Bon, il n'est pas trop entré dans le débat. En fait, c'est un de ses disciples français, La Fléchère, qui était beaucoup plus habile pour la confrontation théologique que lui, parce que je pense que Wesley était quelqu'un d'assez... Comment dire ? Sa sainteté cachait mal son impulsivité. Je ne sais pas comment dire ça. Quelqu'un qui avait du mal à ne pas sortir de ses gonds. Voilà. Donc, il n'a pas pris tant que ça au départ. Il n'a pas pris part tant que ça au débat. Mais ce qui est clair, c'est que par la suite, l'arminianisme, c'est-à-dire la doctrine qui favorise le libre arbitre, est devenue la doctrine de l'Église méthodiste. Alors aujourd'hui, dans le monde méthodiste, je ne peux pas trop dire grand-chose parce que je ne le connais pas suffisamment, mais ce que je peux dire, c'est qu'en France, personnellement, moi, je ne suis ni calviniste ni arminien, et en même temps, je suis les deux, parce que je crois que les deux sont affirmés dans la parole et que le débat, en fait, est un faux débat, parce que la vérité n'est pas une formule magique à laquelle on adhère ou on n'adhère pas. La vérité, elle est un chemin, et ce chemin, c'est un homme. Et il faut le suivre. Voilà. Donc, je crois que le débat, comme disait Paul à Timothée, ne fait que naître des querelles et nous empêche de vivre nos responsabilités dans la foi. Voilà. Voilà ce que je dirais par rapport à...
Bonne réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Est-ce que l'engagement social est toujours aussi prépondérant chez les méthodistes ?
Alors, je dirais que je peux mal répondre à cette question parce que je crois qu'en France, ce n'est pas forcément notre caractéristique, bien qu'en France, nous ayons un certain nombre d'œuvres, en particulier des hôpitaux, pour personnes âgées, en particulier en Alsace, à Bethesda, qui sont toujours gérés par l'Église méthodiste. Dans le monde, c'est une caractéristique importante, oui, effectivement. Je l'ai vu en particulier en Argentine, j'ai été 2 mois en Argentine pour visiter ce qu'ils font là-bas. Et l'Argentine, bon, aujourd'hui, se relève relativement bien d'une crise majeure qu'elle a connue en 2001, je crois, 2003, je ne sais plus. Et quand j'y suis arrivé, c'était en 2006, et on voit bien l'engagement social qu'il y a dans la création d'écoles, création de dispensaires, soupe populaire. Il faut savoir quand même que dans l'engagement social, l'Église méthodiste, en tout cas l'armée du salut, est... Alors, c'est indirectement peut-être, mais c'est un... William Booth, je ne sais pas si je le prononce bien, mais est un pasteur méthodiste qui est le créateur de l'armée du salut. Donc les principes étaient pour lui importants. Mais si je me rappelle bien, j'ai lu ça il y a quelque temps déjà, si William Booth a créé l'église de l'armée du salut, c'est parce que, je ne sais pas si je le dis dans les termes qu'il faut, qui conviennent, mais son église méthodiste dans laquelle il était pasteur était devenue incapable d'accueillir les déshérités. Et ça, c'est le danger qui guette n'importe quelle de nos églises. Parce que je crois que l'évangile tire socialement vers le haut. Et puis finalement, on arrive à devenir des églises qui ronronnent bien, mais qui oublient qu'elles doivent aussi avoir un lien avec les personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas du tout notre manière de vivre et de penser, qui sont confrontées à des choses très, très pratiques. Alors, c'est un défi. Je crois que c'est un défi en France, mais bon, voilà. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est encore une caractéristique importante de l'Église méthodiste, oui, dans le monde.
D'autres questions ?
Concernant les églises méthodistes en Afrique du Nord, quelle est leur situation ?
Alors justement, oui, j'ai complètement oublié de travailler la question. Moi, ce que je peux dire, c'est que Alors, il faut savoir que je n'ai pas parlé de l'organisation de l'église méthodiste, mais nous sommes organisés en conférences. Et ces conférences peuvent être un seul pays, comme l'Allemagne. L'Allemagne a une conférence à elle seule, parce qu'il y a énormément d'églises. Et il y a, je ne sais plus combien... Alors, ça va vous surprendre, mais chaque conférence est présidée par un évêque. Alors, un évêque, ça peut paraître très catholique, catholicisant, mais évêque, c'est un terme qui est biblique avant tout. Hein, c'est en quelque sorte, c'est plus qu'un surveillant, j'allais dire. C'est quelqu'un qui prend en charge et qui visite les... Je ne saurais pas vous décrire le travail de l'évêque. Toujours est-il que l'Allemagne a plusieurs évêques, à elle seule, et nous en avons un pour, je vais vous dire, c'est un superviseur, oui, c'est ça. Pour notre conférence centrale de l'Europe, dans laquelle nous sommes, nous, le district francophone, le district même suisse et France, puisque ce n'est pas seulement francophone, mais c'est toute la Suisse et toute la France et toute l'Afrique du Nord, fait partie d'une conférence centrale qui s'appelle Conférence centrale de l'Europe, qui comprend l'Albanie, l'Algérie, l'Autriche, la Bulgarie, Croatie, Hongrie, Macédoine, Pologne, Serbie, Slovaquie, Tchéquie, Tunisie. Donc vous voyez beaucoup de pays pauvres, hein, en particulier, avec des... Lorsqu'on est confronté nous-mêmes, Français, aux réalités de ces églises-là, on se sent pas très bien. Voilà. Parce que leur réalité, elle est difficile à vivre, et il y a quelque part une joie qui fait quelque chose.
Donc pour tout ça, il y a un seul évêque.
Un seul évêque pour tout ça.
Et il doit visiter tous ces pays.
Oui.
Il a combien de temps pour les visiter ?
Alors, l'évêque actuel, il est nommé à vie. Il n'est pas nommé à vie. Bon, l'évêque actuel, étant donné que la proximité de sa retraite a un prolongement et va rester jusqu'à sa retraite, il est coordonnateur. Sous cet évêque a un certain nombre donc de collaborateurs, puisque c'est... cette conférence centrale est divisée en d'autres sous-conférences qu'on appelle conférences de district, qui elles sont il peut s'appuyer sur le travail de ce qu'on appelle des surintendants, qui sont en quelque sorte des surveillants, des émissaires de l'évêque sur le plan local. Que ce soit l'évêque ou que ce soit les surintendants, ils sont issus du rang, hein. Ce sont des pasteurs comme nous. C'est pas des super pasteurs, ils n'ont pas forcément fait des études bien plus élevées ou quoi que ce soit, mais il se trouve qu'ils ont les compétences reconnues par les assemblées qui sont élues, d'ailleurs, à ce propos. Que dire ? Donc, on était parti au départ sur l'Algérie, hein, sur l'Afrique du Nord. Donc, dans notre conférence annuelle, nous avons la Suisse, la France et l'Afrique du Nord. Alors, il se trouve que j'ai côtoyé d'assez près certains pasteurs qui ont été nommés là-bas. Alors, je pourrais parler seulement de l'Algérie, puisque c'est le seul que je connaisse là, pour l'instant. Donc, la situation, elle est contrastée. Il y a des régions, par exemple, à Constantine, on a une église méthodiste, dans laquelle a été un pasteur qui a fait ses études en même temps que moi, qui aujourd'hui a démissionné de l'église méthodiste. Au départ, il était venu d'Algérie, et puis finalement, maintenant, il est en Suisse. La réalité, là-bas, c'était une forme de persécution, quand même, parce qu'à Constantine, il y a une faculté, donc, une grande école d'islam, hein, je crois qu'on forme les imams là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en même temps une certaine persécution. Je sais qu'il y a des menaces, je vais en rester là, il y a des menaces qui sont proférées, il y a des violences parfois, mais en même temps, c'est un lieu où en un mois, nous avait dit ce pasteur, il avait distribué 1000 bibles. Parce que les étudiants de la faculté venaient chercher dans l'église méthodiste des bibles pour en savoir un peu plus sur Jésus ou sur le christianisme. Donc c'est étonnant, mais en même temps, c'est peut-être la manière dont cette église est utilisée à ce moment-là, dans cet endroit. Alors c'est une petite église. Je pense, en raison de la persécution latente qu'il y a là-bas. La Kabylie, par contre, connaît un réveil extraordinaire. L'an dernier, j'ai rencontré, enfin, on a discuté, on a eu des nouvelles d'un pasteur, alors je ne sais plus de quelle ville en Kabylie, qui disait qu'entre le mois de janvier et le mois d'avril, il avait baptisé 53 personnes, ce qui est quand même extraordinaire. Donc il y a un réveil là-bas, un pays qui est, des gens qui se tournent massivement vers Jésus-Christ. J'ai vu quelques vidéos, c'est quand même intéressant de voir comment ils vivent leur foi. C'est vrai que dans le contexte qu'on connaît, Nos cultes ont l'air bien fades parfois. Il y a une joie qui est quand même. Qui pose question. Voilà. Charles.
J'étais chef de la Fédération protestante avant-hier à Paris et j'ai entendu dire, là, j'ai appris que l'Église méthodiste posait sa candidature pour adhérer à la Fédération protestante, en tout cas l'Église francophone. Aussi, je sais que Jean-Louis Bédron, j'étais pas chaud. Enfin, si ça aboutit, quel serait l'apport de vos églises pour le protestantisme ?
Alors, je me pose la même question que toi. Non, parce que la réalité de la Fédération protestante de France, c'est quand même la représentativité des églises. Et l'église méthodiste dans la Fédération protestante de France, c'est un délégué. Un délégué face à, je ne sais plus, pour l'église réformée, je crois 25 ou un truc comme ça, l'église luthérienne presque autant. Donc, Voilà, je ne sais pas quel sera notre poids. Je pense effectivement que, c'est l'argument qui a été avancé, que les églises évangéliques en général auront de plus en plus, en tout cas je l'espère, leur mot à dire et pèseront dans les décisions et les communiqués qui seront donnés par la Fédération protestante de France. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser quand même la question. Et puis, bon, ce qui est gênant aussi, c'est la manière de définir ce qu'est un membre entre une église et une autre. Forcément, créer des déséquilibres qui ne sont pas représentatifs de la réalité. Et c'est pour moi les raisons principales qui font que j'ai la même position que Jean Rubin. Mais nous sommes actuellement, nous avons déposé notre candidature. Et voilà. Oui, oui, tout à fait. Ça a été voté en Assemblée Générale qui a eu lieu il y a 2 semaines. Voilà. Non, pas vraiment, mais non. Oui. Je sais pas, tu fais allusion à quoi ? Je te retourne la question.
Quelque chose que vous avez gardé avec une vigilance toute particulière, ça veut pas dire que vous seriez les seuls à détenir telle richesse et que les autres n'auraient pas, mais on a tous quand même quelque chose.
Une volonté, je pense, une volonté quand même de favoriser le dialogue entre les différentes confessions et de ne pas s'arrêter, je pense. Hein. Ne pas s'arrêter à des... Ne pas s'arrêter à des confessions de foi. Maintenant, ou à des formulations de confessions de foi. Maintenant, le problème, c'est jusqu'où peut aller une collaboration et jusqu'où est-ce qu'on peut se... Mais je ne veux pas aller... En plus, c'est enregistré, je ne voudrais pas qu'on déforme mes propos. Mais je me pose la question de jusqu'où est-ce qu'on peut collaborer. En particulier, je me pose des questions surtout sur les prises de position éthiques qu'aura la Fédération protestante de France face au débat quel que soit le vote de la prochaine élection présidentielle, sera un débat d'actualité, un débat par rapport au statut de certains couples, bon, hétéros, homosexuels, voilà, ça c'est sûr que là on pourra se poser la question, est-ce que on risque d'avoir des divergences, effectivement. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on peut apporter de plus, je l'espère, un éclairage évangélique, un éclairage biblique, je l'espère. Voilà. Et pas trop humaniste, mais vraiment basé sur la parole de Dieu. Je l'espère. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ?
Est-ce que M. Wesley a pris une opposition au
départ de son ministère ? Ah oui, ben, je l'ai dit, hein, oui, oui, oui. Il a connu une grosse opposition, en particulier de l'Église établie, puisque lui était dans l'Église anglicane. Et son mouvement était un mouvement de réforme, mais le problème, c'est que son appel à une foi authentique, j'ai envie de dire, une foi un peu moins basée sur... Alors, dans ce que je vais dire, il ne faut pas que vous croyez que j'oppose Paul à Jacques. Au contraire, hein, je parle de l'apôtre Paul, hein, et de Jacques. Mais je pense que le méthodisme était un peu moins, se basait un peu moins sur la prédication de Paul et un peu plus sur la mise en pratique de Jacques. Vous relirez Jacques et vous verrez que c'est... J'ai fait il n'y a pas longtemps une étude biblique sur Jacques à l'Est et Paul ne dit rien de différent, hein. C'est juste peut-être un accent qui est plus fort en fonction de la communauté qu'il avait en face de lui. Mais Il est vrai que le méthodisme, ou en tout cas John Wesley, a voulu mettre au centre la mise en pratique de la foi, et pas seulement la confession. C'est-à-dire qu'il voulait que la... que les convictions, elles passent de là à là. Et quand elles passent là, elles se décrivent en acte, en œuvre. C'est le principe même du méthodisme, enfin, de la prédication de Wesley, c'est la marche dans la sanctification. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut peut-être remettre au goût du jour, ou en tout cas, toujours continuer à prêcher, parce que la sanctification, c'est une marche qui peut parfois coûter, en tout cas en apparence. Et peut-être que c'est pour cela que l'Église établie s'est un peu opposée à cette prédication-là. Parce que ça invite à aller vers les pauvres, ça invite à s'attacher à... Ça invite à produire des œuvres, mais pas des œuvres seules. J'entends par œuvre pas seulement l'argent qu'on donne aux pauvres ou la soupe qu'on va distribuer une fois par mois, mais des œuvres dans sa vie personnelle, des changements, la sanctification. Quoi.
Tu disais au départ de ton exposé qu'il semblait qu'il y avait un message à retirer pour nous de cette histoire. Donc le message que tu retirais, c'est ça, c'est la sanctification, c'est la leçon qu'on a tirée de l'histoire de Wesley.
La mise en pratique de la foi, oui. C'est que je crois très fort que la doctrine est importante, la formulation de la foi est importante, et il est dangereux de rester dans le flou par rapport à ce qu'on connaît de sa foi, qu'il faut approfondir ses connaissances. Mais ces connaissances-là resteront pour l'être morte si elles ne passent pas du cerveau au cœur. C'est-à-dire qu'elles ont... La Bible le message de l'Évangile doit fondamentalement transformer notre cœur. Et de fond en comble... pas seulement quelques secteurs de notre vie. On réduit en France le... Je commence à faire ma prédication de dimanche. Là, mais bon. On réduit en France les convictions religieuses à la sphère privée. Mais est-ce que il existe pour nous une sphère privée par rapport à Jésus, ou est-ce que toute notre vie doit être imprégné de l'Évangile? Est-ce que tous les secteurs de notre vie, est-ce que nous avons ouvert tous les tiroirs du coffre-fort, ou est-ce que nous avons mis l'Évangile dans un des coffres-forts? Voilà la différence, je crois, et je pense que c'est ce qu'aurait pu dire John Wesley et ses collaborateurs. Voilà.
Dernière remarque, oui, Étienne.
Est-ce que vous pouvez situer comment est constitué l'engagement missionnaire actuel de l'Église méthodiste? Est-ce qu'elle envoie des missionnaires? Est-ce que c'est une question?
Alors il y a une mission méthodiste, effectivement, qui s'appelle Connexio, en tout cas pour l'Europe. Elle s'appelle Connexio. Mais je vous avoue que je n'ai pas potassé le truc, je connais mal... l'implication, je sais qu'elle est très impliquée dans les pays de l'Est en particulier, en Afrique aussi. Mais je connais personnellement des gens qui sont issus des églises françaises et qui sont allés en mission, en particulier en Afrique. Mais je ne peux pas vous dire grand-chose sur la mission méthodiste. Je vous avoue que c'est pas un sujet que je connais plus que ça. Je me suis pas trop présenté au départ, mais je ne suis pas pasteur que depuis 3 ans. Donc je découvre encore beaucoup de choses et je suis loin d'être un spécialiste de tous les sujets. Hein. Voilà.
Bien, merci beaucoup. Alors avant de nous quitter, juste encore deux annonces. La prochaine rencontre au coin du livre aura lieu ici le vendredi 20 mai. Nous recevrons la responsable de la CIMAD d'Alès, Dani Benezé. Donc la CIMAD, vous savez que c'est ce mouvement qui a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale hein, pour faire face à l'afflux de réfugiés alsaciens et lorrains. Et qu'ensuite, très vite, hein, sous l'inspiration ou l'impulsion plus exactement de Marc Bogner et de Madeleine Barrault, ce mouvement s'est transformé en mouvement d'accueil et de soutien aux Juifs pendant toute la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, à l'ensemble des immigrés hein, sur le territoire français ou à l'extérieur. Donc la CIMAD est un mouvement très connu du protestantisme français, je dirais très, sans doute le mouvement le plus médiatisé hein, du protestantisme français, et ça a été un mouvement qui a eu un retentissement considérable et un apport considérable pour le soutien des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en particulier, et puis ensuite pour tous les mouvements d'immigration ici en France. Voilà, donc Dani Benezé viendra nous présenter ce travail de manière générale, mais aussi sur le plan plus local ici à Alès. Ensuite, dernière conférence de notre cycle, puisque vous savez que le cycle de cette année hein, de la librairie est réduit, consacré au grand siècle, aux protestants pendant le grand siècle, et c'est Jean Hubach, qui est donc agrégé d'histoire, doctorant en histoire, un spécialiste de l'histoire politique des protestants dans la première moitié du XVIIe siècle, qui viendra nous parler du choix qu'ont eu à faire les nobles, hein, les grandes familles nobles françaises protestantes, comme les Lesdiguières par exemple, hein, qui donc ont dû choisir entre leur fidélité au roi et leur fidélité à la foi. Il viendra nous entretenir donc de ce sujet, hein, le vendredi 27 mai à la médiathèque d'Alès. Et puis ensuite, il y aura en juin, hein, mais je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler, une table ronde ici sur les nouveaux documents Camisard, hein, puisque Max Chalet, éditeur hein, Camisard, en particulier hein, des Camisards, hein, puisqu'il avait fondé les presses du Languedoc, vient d'exhumer 2 manuscrits vieux de 300 ans qui n'ont jamais été publiés, hein, donc qui sont des manuscrits complètement inédit, hein, et il viendra avec les 2 auteurs qui ont annoté ces manuscrits, Eckhard Bernstein, qui est maître de conférence à Toulouse, et Pierre Roland, qui est un spécialiste de l'histoire des Camisards. Il a écrit un dictionnaire des Camisards, notamment, et il vient de publier donc les mémoires de Jean Cavalier. Il viendra avec ces 2 auteurs nous parler de ces nouveaux documents Camisards, donc le vendredi 3 juin, pour une table ronde ici à la librairie. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'être venu surtout. N'hésitez pas à vous désaltérer, il y a des boissons qui sont servies dans la librairie juste à côté. Et si vous avez encore des questions, eh bien, posez-les à David, n'hésitez pas.
J'ai peut-être juste une dernière chose à dire, c'est que j'ai apporté quelques fascicules, brève présentation de l'Église méthodiste. Donc j'en ai un certain nombre si vous les souhaitez, si vous voulez en savoir peut-être un peu plus, bien que la plupart des choses ont été dites.
Eh ben, ça permettra de rafraîchir la mémoire. Voilà, profitez-en. Bonne soirée à tous. Merci.